Réfléchissez deux minutes.
Ensemble sur Calade.
Accessible.
Le prof Patrick.
Et avec nous en studio, c'est le prof Patrick. Bonjour.
Salut Mathieu, salut les auditeurs.
Bon alors, de quoi est-ce que vous nous parlez cette semaine?
Aujourd'hui, je vais te feinter, je vais te surprendre. Parce qu'on va se poser une question en apparence saugrenue et totalement hors actualité.
Ouais.
Et alors, qui ne concerne pas l'économie a priori. Je te pose la question Mathieu, Darwin était-il de droite?
Voilà, celle-là, effectivement, j'allais pas
venir. Oui, je vois, hein, tu ne te parles pas du tout. Hein. Alors, je vais m'expliquer. Darwin, un des scientifiques les plus importants de l'histoire humaine, monsieur, parce qu'en fait, il a découvert que les espèces évoluaient sous l'effet d'un mécanisme qu'on appelle la sélection naturelle. Ainsi, il a fait, comme on dit, tomber l'homme de son piédestal, un piédestal qui avait été naïvement construit par les différentes religions depuis la nuit des temps. C'est la publication de son ouvrage « L'origine des espèces » en 1859 qui a tout déclenché et qui a fait du bruit du côté de la tradition, hein, d'accord ? Pour autant, cette nouvelle vision a aussi très vite été adoptée par les forces politiques et économiques nouvelles de l'époque, fin 19e siècle, en Occident. Ben, comprends bien Mathieu, hein, il suffisait d'appliquer, en simplifiant largement, cette analyse aux êtres humains, et c'est ce qu'a fait un certain Herbert Spencer dans le courant du darwinisme social. Et le tour est joué. Les pauvres, dans nos sociétés, sont les perdants de l'évolution. Leur difficulté, c'est la conséquence de leurs insuffisantes capacités dans la lutte pour la survie.
Wow.
En poussant un peu le trait, ils sont tôt ou tard voués à disparaître. D'où la leçon que le darwinisme social en tire, il ne faut surtout pas de loi pour aider les plus pauvres et les plus démunis. Non. Car nous ferions obstacle à ce mécanisme de sélection naturelle et ça serait néfaste pour le dynamisme de l'espèce humaine dans son ensemble.
D'accord, donc Darwin était de droite.
J'imagine. J'en rajoute une petite couche et puis après on essaie de répondre à la question. T'en conviendras Mathieu, en tout cas ça sent bien la pensée de droite, hein, on est d'accord ?
Ouais, c'est pas
bien.
Terrible.
Alors même si on considère habituellement que notre ami Spencer, Herbert Spencer, a poussé le bouchon un petit peu loin, ses idées n'en ont pas moins essaimé un peu partout. Un exemple, j'ai cité à plusieurs reprises l'année dernière le fameux économiste Friedrich Hayek, considéré comme le plus grand économiste libéral du XXe siècle, désolé Milton Friedman. Et bien sa vision du fonctionnement de notre système économique, elle est largement darwino-spencerienne si je puis dire. Pour lui, notre système économique est un système fondé sur la sélection naturelle, la lutte pour la survie, et toute intervention de l'État équivaut à perturber ce mécanisme. L'intervention de l'État doit donc être bannie, c'est le cœur de la pensée de Friedrich Hayek. De façon plus globale, le darwinisme social a nourri un pan immense de la pensée d'extrême droite au début du XXe siècle, et on en retrouve la trace un peu partout, par exemple dans les politiques d'eugénisme des États-Unis ou de la Suède, hein, des pays quand même a priori assez démocratiques, et évidemment dans l'Allemagne nazie, on s'en doute bien. Donc Mathieu, tu l'as dit, Darwin est de droite alors, voire d'extrême droite.
J'ai bien l'impression.
Tu t'engages Mathieu?
Oui, je...
Très bien.
Je mise là-dessus.
Bravo. Tu vas un peu vite en besogne Mathieu, je le trouve. Tu me connais pas, mon côté pervers et trompeur. Ouais, sauf que ça viendra après.
D'accord.
Disons déjà que Darwin a été très prudent dès qu'il s'agissait d'appliquer sa théorie à l'espèce humaine. Ses ouvrages suivants, qui sont « La filiation de l'homme et la sélection liée au sexe », puis « L'expression des émotions chez l'homme et les animaux », qui ont été publiés en 1871 et 1872, montrent qu'il est très prudent. Il a aussi d'ailleurs résolument pris ses distances avec le courant politique ultralibéral que représentait le darwinisme social. Bon, pour autant, il s'est quand même trouvé à l'époque des scientifiques pour critiquer l'apparente incapacité de la théorie de Darwin à prendre en compte les mécanismes de solidarité qu'on observe pourtant dans toutes les sociétés. On peut citer un certain Kropotkin, médecin, grand penseur de l'anarchisme, et qui a écrit un ouvrage en 1902 qui s'appelle « L'entraide ». Et là, il apportait vraiment la contradiction intellectuelle à Darwin en disant « Non, la société est aussi fondée sur l'entraide ». Bon alors, aujourd'hui, qu'en est-il de cette question? Est-ce que la société évolue selon un mécanisme darwinien de sélection naturelle, forcément égoïste, très analogue à la vision des économistes libéraux, Adam Smith, la main invisible, donc de droite? Ou bien peut-on trouver une base scientifique aux mécanismes d'entraide, de coopération qui sont plutôt de gauche, hein, je mets des guillemets à tout ça, vous vous en doutez bien. Te voilà circonspect, Mathieu?
Oui.
T'inquiète pas, je vais apporter des éléments de réponse.
J'ose pas dire de bêtises là.
Vas-y, mais vas-y.
Visiblement, je me suis planté.
On est entre nous, tu peux y aller.
Non, mais je pense qu'on est plus une société qui ressemble à une fourmilière où tout le monde s'aide les uns les autres plutôt que la grande nature où on se mange les uns les autres.
Gardons ta réponse dans un coin et on en reparle à la fin. Je vais faire un détour, devine quoi, par l'économie. Comme c'est étonnant, prof Patrick, l'économie. Je vais donner un premier élément de réponse. Dans les années 60, un économiste qui s'appelle John Nash publie des travaux sur la théorie des jeux à travers un exemple fameux qu'on appelle le dilemme du prisonnier. Le dilemme du prisonnier, c'est l'histoire de deux complices d'un braquage qui sont interrogés séparément par la police. Ils ont le choix entre 1. Dénoncer leurs collègues, 2. Se taire. Le meilleur choix individuel, c'est de trahir leurs collègues, mais le meilleur choix collectif, c'est de se taire tous les deux. À la fin, comme ils font le meilleur choix individuel, ils trahissent toujours leurs collègues, tous les deux, et ils perdent tous les deux. John Nash va avoir le prix Nobel d'économie, mettez des guillemets à Nobel s'il vous plaît, en 1994 pour ses travaux. Travaux qui confortent la vision d'un être humain rationnel, foncièrement égoïste, bref, la vision néoclassique, libérale, classique. Non, ça va être deux fois classique. Sauf que l'histoire a une suite. Et ça va se passer 20 ans après. Et c'est un prof de sciences politiques qui s'appelle Robert Axelrod qui va l'écrire. Il reprend cette expérience du dilemme de prisonnier. Mais il part d'un constat de bon sens qui, semble-t-il, avait échappé à tout le monde. Dans la plupart des cas, dans la vraie vie, on n'a pas un seul choix à faire, mais on fait un ensemble de choix successifs. Et là, ça change tout. Ça change tout. Parce que dans ce cas-là, et c'est ce que Robert Axelrod va démontrer, on passe d'un choix égoïste et perdant inévitable à un choix, devine quoi, altruiste. On peut maintenant revenir à la biologie de Darwin. J'avais fait un petit détour biologie de l'évolution de Darwin. Voilà la clé d'interprétation qui manquait à Darwin. Quand on fait tourner dans un logiciel l'ensemble des choix possibles de cette théorie des jeux et de ce dilemme du prisonnier pour simuler en accéléré une évolution temporelle importante, eh bien on s'aperçoit que c'est le choix altruiste, le choix de coopération qui permet le mieux de survivre.
Ouais.
Et qui est donc l'objet de la sélection naturelle. Je vous mettrai en lien une petite vidéo absolument géniale de Arte qui présente tout ça dans leur collection Voyage au pays des maths. Ouf. T'as entendu le ouf, Mathieu?
Oui.
C'est toute la gauche qui vient de pousser ce ouf de soulagement. Eh bien oui, enfin, on a la confirmation que la théorie de Darwin n'est pas que de droite. Elle est aussi quelque part un petit peu de gauche. Le philosophe Peter Singer peut écrire en 1999 son ouvrage « Une gauche darwinienne » pour l'expliquer au monde incrédule.
D'accord.
Bon, pour les gens de droite pas convaincus qui m'écouteraient, je conseille également la lecture d'un ouvrage absolument génial de Joseph Heinrich qui s'appelle « L'intelligence collective ». Joseph Heinrich est responsable du département de biologie évolutive à Harvard et son ouvrage prouve de façon magistrale que la sélection naturelle ne porte pas que sur les êtres humains individuellement, mais aussi sur les sociétés humaines dans leur ensemble. Il montre que l'intelligence collective, sous-entendu la culture, que nous, êtres humains, construisons ensemble depuis des millénaires, est une force majeure à l'origine de l'évolution des êtres humains, et donc à l'origine d'une grande partie de la sélection naturelle qui a fait de nous l'espèce dominante. Bref, il montre que notre réussite est d'abord collective. Conclusion. On avait un maître mot pour comprendre l'espèce humaine jusqu'à présent, c'était compétition. Il faut en rajouter un deuxième, c'est ensemble. J'en ai terminé, Mathieu.
C'est pas mal comme conclusion, ça me plaît bien.
Pour une fois, je fais une conclusion optimiste.
Merci beaucoup, prof Patrick. À très bientôt.
À plus.
Ensemble sur Calade.